Conséquence de cette conférence de presse, la session questions-réponses, et nous allons rester ici. Nous allons demander, bien entendu, à tout le monde d'éteindre les téléphones portables ou de les mettre sous silencieux. Et je rappelle que vous avez à Goma le commandant Bernard Comins qui répondra aux questions d'ordre militaire. Et puis ici, nous avons donc José Maria Aranas du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme et le docteur Alaranga pour des questions sur les deux sujets qu'il a abordés. Nous avons également d'autres collègues dans la salle qui pourront intervenir, tant de l'équipe pays que d'ailleurs d'autres organisations. Merci et nous allons rester ici à Goma pour prendre... à Kinshasa, pardon, parce que je pensais effectivement à Goma où la salle aussi est pleine. Nous allons rester ici donc à Kinshasa pour prendre une question au fond ou à côté, comme vous voulez. Enfin, je disais au fond, mais bon, allez-y.
Charles, Théodore Gandou pour les comptes de Télé 7. Oui, monsieur Charles, vous venez d'annoncer tout à l'heure le bon office de la MONUSCO pour l'application intégrale de l'accord du 31 décembre. Alors, je voulais savoir en quoi vont consister ou bien en quoi consistent ces bons offices quand on sait que vous avez en face de vous deux camps. D'une part, le rassemblement El Kassavubu, comme on l'appelle bien, qui est rallié, semble-t-il, qui est appuyé déjà par la majorité présidentielle parce que le Premier ministre est déjà nommé. Et d'autre part, vous avez le rassemblement Elle limitée, dirigée par les duos Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, qui eux ne jurent que par l'application de l'accord. Pour eux, ils rejettent la nomination de Bruno Tshibala, qui du reste a été radié ou exclu de l'UDPS. Alors, vous avez cette situation-là devant vous. Comment la MONUSCO va-t-elle s'y prendre pour arriver à faire concilier les différents points de vue et faire appliquer cet accord que vous voulez à tout prix, parce que vous dites qu'il n'y a pas d'alternative à l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre.
Merci pour la question. Il faut savoir que les évêques de la CENCO ont remis donc leur tablier, si on peut dire après avoir eu cet accord de la Saint-Sylvestre. Et l'accord de la Saint-Sylvestre, pour l'ensemble de la classe politique, reste le point de départ de la feuille de route qui s'en vient. Nous avons un mandat qui est très clair. Accompagner la mise en œuvre de cet accord de la Saint-Sylvestre, et cela est inscrit dans la résolution 2348, et c'est ce que nous allons faire. Monsieur Mamadou Sambo Sidikou, comme vous l'avez suivi, depuis donc ce week-end, a commencé à s'entretenir avec toutes les composantes politiques liées à cet accord de la Saint-Sylvestre. Alors, il a ainsi rencontré non seulement le rassemblement, Bruno Tshibala le secrétaire général de l'UDPS, la CENCO, d'autres acteurs de la vie politique côté majorité. Il va continuer dans les jours et la semaine qui viennent à renforcer ces bons offices-là. Et vraiment, nous avons appelé d'ailleurs tous les acteurs à mettre en œuvre, et de bonne foi, et de façon complète, cet accord de la Saint-Sylvestre. Parce que tout repose là, il y a bien sûr les arrangements particuliers qui devaient être actionnés. Nous allons focaliser au niveau de la MONUSCO nos bons offices autour de la mise en œuvre de cet arrangement particulier. Nous espérons y parvenir avec la bonne volonté, comme je l'ai dit, des uns et des autres. Et il ne faut pas désespérer donc de cette situation. C'est vrai qu'elle est difficile, c'est vrai qu'elle est compliquée, mais avec les bons offices que nous avons vus en œuvre pendant ce week-end pascal, nous pensons que cela va dans la bonne direction. Nous attendons de voir bien sûr les résultats, mais vous êtes là avec nous, nous allons suivre ça et nous allons commenter la fin, car ces bons offices vont continuer encore aujourd'hui et tout au long de la semaine. Nous allons peut-être prendre une question. Où est-ce que nous avons le micro? Bon, peut-être donner à la dame. Présentez-vous et puis posez-nous votre question.
Aline Engwe pour le compte de politico.cd. Devant le Conseil de sécurité, le représentant avait félicité au fait la nouvelle le nouveau fait leadership du rassemblement. Et puis quelques jours plus tard, Vous venez de prendre acte de la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre. Pourquoi est-ce que, en fait, pourquoi cette contradiction, au lieu de demander directement aux autorités de nommer un premier ministre, ici, bien sûr, du rassemblement dont la MONUSCO et les Nations Unies avaient félicité? Merci.
On ne va pas continuer cette guerre de sémantique. Moi, je vais vous renvoyer au dictionnaire Larousse et au dictionnaire Robert pour voir ce que c'est que prendre acte. Lorsque vous aurez exactement cette signification, vous allez peut-être revenir nous dire. Mais il faut savoir simplement que pour nous, notre feuille de route, et nous l'avons dit de façon claire et nette, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre. Et la résolution 2348 nous dit la MONUSCO doit mettre en œuvre l'accord de la Saint-Sylvestre. Et c'est ce que nous allons faire. Et les bons offices, une fois que de plus, je l'ai dit, sont activés, montent en puissance. Beaucoup de rencontres se sont faites. Et je suis sûr qu'au fil des semaines, au fil des semaines à venir, les lignes vont peut-être bouger et peut-être que nous allons tous revenir sur cette application de l'accord de la Saint-Sylvestre qui reste la feuille de route pour les élections de la fin de cette année. Nous l'espérons, nous tous. Et en tout cas, au niveau de la MONUSCO, nous n'avons pas d'autres objectifs que cet objectif qui nous est assigné donc par le Conseil de sécurité. Nous allons donc y travailler d'arrache-pied pour que cela puisse être une réalité. Voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce sujet. Nous allons partir, avec votre permission, à Goma, où il y a beaucoup de journalistes aussi, de confrères journalistes là-bas. Et je rappelle une fois de plus que nous avons le général Comins pour les questions militaires, et puis ici, bien sûr, José Maria Aranaz, et puis le docteur Alaranga pour les questions de santé. Voilà, Goma, deux questions s'il vous plaît.
Oui, moi c'est Victor Bigatti pour le compte du journal Breaking Up. Je vais tout droit poser ma question au général Bernard. Général, hier, les Sud-Soudanais, ils ont pris en otage les agents de la MONUSCO. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est temps de les délocaliser de la RDC pour que le pire n'arrive pas?
Je vais peut-être prendre la réponse à cette question ici, hein, plutôt que parce que nous avons suivi hier soir toute la journée les développements donc au camp de Munigi. Il faut savoir effectivement que, et je l'ai dit très clairement dans la présentation en début de conférence, que nous avons joué un rôle logistique et humanitaire en venant en aide à ce Sud-Soudanais. Et le gouvernement de la RDC, le gouvernement sud-soudanais, avec l'appui de la communauté internationale et l'appui des organisations régionales, essaie de travailler maintenant à trouver une solution pour le départ de ces sud-soudanais vers leur pays volontairement ou vers d'autres pays tiers. Et c'est là où se situe le débat. Ce n'est pas une mission qui est forcément une mission de la MONUSCO, c'est une mission du pays hôte, c'est-à-dire de la RDC, du Sud-Soudan et des pays de la région. Beaucoup de choses sont en train de se faire, beaucoup de contacts sont en train de se faire. Vous avez vu que l'ambassadeur sud-soudanais était à Goma, ainsi que le vice-ministre de la Défense, ainsi que le représentant spécial adjoint chargé des opérations, M. David Gresley, et les consultations se poursuivent. C'est vrai que 8 soldats sud-soudanais sont déjà repartis chez eux, une fois de plus volontairement. Et nous souhaitons bien sûr voir le retour des nombreux autres sud-soudanais encore dans le camp de Munigi. Et une fois que les lignes vont bouger aussi à ce niveau, nous vous tiendrons informés. Deuxième question, s'il vous plaît, à Goma.
Merci pour l'expression d'Arel Maurice, Tech Magazine. Mon commandant, comment la situation vous a-t-elle échappé? Et nous parlons toujours des Sud-Soudanais à Munigi. Et que peut-on en déduire face à cette perte de contrôle que vous illustrez déjà? Je parle pour la sécurité de la province du Nord, qui voit en particulier la ville de Goma.
Une fois de plus, je prends cette question en général ou vous la faites? Allez-y, général, je compléterai éventuellement.
Je vous en prie.
Ok. Juste pour dire que le camp de Munigi n'est pas sous la supervision de la force de la MONUSCO. C'est un camp DDR où nous avons effectivement les Sud-Soudanais. Ce camp n'est pas une fois de plus sous la supervision directe de la force de la MONUSCO. Et c'est des activités de routine que nos éléments donc faisaient. Et c'est vrai qu'ils ont été ensuite empêchés de sortir, mais avec les négociations qui ont été conduites sur place par le représentant spécial adjoint du secrétaire général, M. David Grézelay, qui ont duré jusqu'à tard la nuit, un accord a été trouvé pour laisser partir ces 16 employés de la MONUSCO chez eux. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de victimes, comme nous l'avons dit tout à l'heure au début de cette conférence de presse. Mais nous allons effectivement ouvrir une enquête pour voir qu'est-ce que nous pouvons améliorer pour, une fois de plus, améliorer la situation de la tenue de ce camp en termes sécuritaires et en termes de suivi. Voilà un peu ce qu'on peut dire, et une fois de plus, c'est pas la responsabilité directe de la force. C'est vrai que nous avons aujourd'hui, amélioré notre présence déjà sur le terrain pour assurer la sécurité autour de ce camp. Nous allons revenir ici, donc, à Kinshasa pour prendre... Il y a beaucoup de mains, mais bon... peut-être allons-y au fond, ensuite on va revenir. Oui, on va venir, madame. Vous avez beaucoup de collègues autour de vous.
Merci, c'est M. Alain Ouekani pour l'agence de presse Chine Nouvelle. M. Charles, pendant la semaine passée, l'auditeur général a annoncé des avancées dans les dossiers de l'assassinat des experts de l'ONU. Vous avez dit la fois passée que l'ONU, vous aussi la MONUSCO, vous avez votre propre enquête sur terrain. Le gouvernement congolais a annoncé des avancées. Est-ce qu'on peut savoir de votre côté, des sources disaient que la MONUSCO aussi a déjà des informations concernant ce qui s'est passé réellement au Kasaï contre les deux experts. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Merci.
En réalité, ce que nous pouvons vous dire sur ce sujet, c'est que la MONUSCO appuie la justice militaire donc de la RDC dans son enquête. Comme vous l'avez entendu de la bouche de l'auditeur militaire qui, la semaine dernière, a fait un point de presse, il a confirmé cette collaboration. Pour nous, dans la mesure où cette enquête est déjà en cours, nous ne pouvons pas maintenant commenter sur ou communiquer sur ce qui se passe. Une fois que l'enquête sera bouclée, nous allons vous livrer donc les résultats de cette enquête ici même au cours d'une conférence de presse. Nous allons passer ici plutôt du côté gauche. Où est le micro? Oui, passez le micro derrière peut-être. Présentez-vous.
Merci, M. Charles Bambara. C'est Claudine Mkoko pour les comptes des Désastres Télévision. Moi, je crois devoir rester dans les mêmes diapasons que mon prédécesseur de tout à l'heure, M. Alain de Chine Nouvelle. Concernant l'affaire Kamuyantapu, bien sûr que oui. Le mercredi dernier, les représentants spéciaux adjoints de l'ONU, du secrétaire général de l'ONU, M. David Grézelay, qui avait annoncé, bien sûr, que 10 casques bleus de la MONUSCO aurait d'ores et déjà été déployé dans les provinces de Kasaï afin d'assurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays. En se basant sur un raisonnement actif et cohérent, il semblerait que c'est un jugement fondé sur des indices et encore non approuvés. Permettez-moi, si je peux avoir du chauvinisme, de le dire, parce qu'on ne sent pas vraiment l'impact de ce déploiement, bien sûr que oui. Et vous, en tant qu'organe faisant partie de cette structure sécuritaire, s'il faut vaticiner là-dessus, quelles sont des mesures préventives parlant de la restauration de la paix et de la sécurité dans cette partie du pays? Et plus loin encore, comme vous le savez très bien,
On peut déjà répondre à cette question.
Non, hein, s'il vous plaît. Et puis encore, les familles qui ont été disloquées avec leurs enfants, est-ce qu'elles vont, plutôt ses parents, vont-ils renouveler leur confiance à la MONUSCO, d'autant plus qu'ils sont victimes, de la recrudescence et des violences dans cette partie de la République démocratique du Congo? Et parlant aussi...
Non, s'il vous plaît. C'est bon. Mon collègue, le porte-parole Félix Basse, qui n'est pas là, a l'habitude de dire ici à cette conférence de presse que la répétition est une pédagogie. On va répéter ce qu'on a déjà dit à plusieurs conférences de presse passées. La première responsabilité de la sécurité de la population, ce sont les forces de sécurité nationales. Nous avons bien sûr un rôle de protection des civils qui est défini dans les différentes résolutions du Conseil de sécurité. Et nous avons commencé à le faire dans les provinces du Grand Kasaï, comme on le dit. Depuis décembre, je l'ai répété ici à plusieurs reprises, nous avons progressivement augmenté notre présence civile et militaire et policière dans la province. C'est vrai qu'elle n'est pas au maximum de ce que nous le souhaitons. Nous n'avions aucune présence, presque aucune présence, peut-être une dizaine de présences. Aujourd'hui, on en a 300 sur le terrain, essentiellement militaires, mais nous allons continuer à le faire. Le bureau de Kananga que nous avions était ce que nous appelons en termes techniques une antenne. Maintenant, c'est un bureau plainte, comme le bureau de Goma, comme le bureau de Bukavu. Donc, ce qui montre un peu le désir de la MONUSCO de prendre sérieusement les problèmes sécuritaires dans le Grand Kasaï. Et pour vous donner juste cette information en toute primeur, la MONUSCO a décidé, nous n'avions pas une antenne de diffusion, nous avons juste une antenne de diffusion à Kananga, nous allons ouvrir un studio de radio Kapi à Kananga. Pourquoi ? Parce que nous estimons que l'effort de communication, l'amélioration de la communication avec les populations autochtones dans le Grand Kasaï, non seulement en français, mais en Tshiluba dans la zone, peut aussi participer à l'apaisement des cœurs, peut aussi amener beaucoup plus, j'allais dire, taire ces rumeurs qui circulent, avoir une information beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée, etc., pour apaiser les cœurs. Et c'est ce que nous allons faire. Non seulement, vous voyez, du point de vue communication, du point de vue militaire, du point de vue policier, nous montons en puissance et tout cela va contribuer, nous le souhaitons, dans les semaines qui viennent, à un calme, à un retour au calme. Et nous saluons, comme vous le savez, les efforts entrepris par la partie gouvernementale. Il y a un début de solution qui a été enclenché par le vice-ministre de l'Intérieur sur le terrain. Cela va dans la bonne direction et nous l'encourageons. Côté humanitaire, c'est vrai que la situation au Grand Kasaï a beaucoup d'aspects humanitaires.
Oui, en effet, si je peux compléter, vous avez fait allusion dans votre question aux familles qui ont été séparées, aux personnes qui sont affectées. Donc selon nos collègues du bureau de la coordination des affaires humanitaires, à ce jour, il y a 1 200 000 personnes qui sont dans le besoin dans le Kasaï et parmi elles 1 million de personnes qui sont déplacées. Alors les besoins, ces personnes ont besoin d'être protégées, Charles l'a dit, ces personnes ont besoin de pouvoir accéder aux services et aux biens de base, elles ont besoin aussi, ce n'est pas le représentant de l'OMS qui va me démentir, il est important d'avoir une surveillance épidémiologique et il est aussi important de répondre à la malnutrition aiguë sévère qui atteint les enfants de moins de 5 ans. Alors, plus de 700 000 personnes ont été ciblées parmi les plus vulnérables et les besoins sont estimés à plus de 50 millions de dollars pour pouvoir apporter une assistance. Donc, les Nations Unies, actuellement, toute la communauté humanitaire se mobilise et effectue un plaidoyer afin de pouvoir lever ces fonds pour que toutes ces personnes puissent recevoir une assistance.
Une question santé, est-ce qu'il y en a ou droit de l'homme d'ailleurs? Bon, on va donner une question santé là. Question santé. J'espère que c'est santé, hein, c'est pas.
Bien sûr, c'est santé.
Allez-y.
Laetitia Massella, pour le compte de la RTNC de développement, je pose ma question au docteur de l'OMS. Quelle stratégie l'OMS a mise en place pour réduire l'impact du paludisme qui continue de faire plus de 400 000 morts par an? Ici, en RDC, l'environnement est vraiment très sale, qu'on se dise la vérité. Est-ce que vous avez assez de moyens pour la mise au point, par exemple l'évaluation et le déploiement de nouveaux outils? Merci.
Docteur Alaranga, quelques éléments de réponse, hein, parce qu'on tire vraiment vers
la merci. Je crois que les stratégies pour faire face au paludisme, ce sont des stratégies connues. Vous savez, depuis 2000, depuis qu'on a commencé à parler de moustiquaires imprégnés d'insecticides, depuis qu'on a commencé à parler de pulvérisation intradomiciliaire, je crois que les choses ont effectivement progressé. Pour l'utilisation des moustiquaires, entre 2010 et 2015, il y a eu une nette augmentation, puisqu'en 2010, on était à une couverture de 30%. En 2015, on est passé de 30% à 53% de couverture d'utilisation de moustiquaires imprégnés. Et dans le même temps, il y a eu une baisse des cas de paludisme de 21%, et en termes de décès, il y a eu une baisse de décès de 29%. Je crois que les outils sont là. Maintenant, il faut que les populations puissent effectivement utiliser ces moustiquaires. Vous conviendrez avec moi que parfois on fait des distributions de moustiquaires dans des communautés et on se rend compte que ces moustiquaires ne sont pas utilisés. Et actuellement, tous les efforts sont faits pour que les moustiquaires qui sont donnés soient effectivement utilisés. C'est vrai, il reste encore beaucoup à faire. Et je pense que l'objectif qui est donné actuellement pour les États membres, c'est de faire en sorte que d'ici 2020, les chiffres qu'on a de 2015 là, que ces chiffres, qu'il s'agisse des nombres de cas de paludisme ou des décès par paludisme, que ces chiffres puissent diminuer au moins de 40%.
Merci, docteur Alaranga. Nous allons peut-être prendre une question à Goma pour une question militaire ou une question droit de l'homme. Parce que pour une fois, le José Maria Aranaz n'a pas eu beaucoup de questions. Alors, Goma, s'il vous plaît, on va revenir ici. Goma, s'il vous plaît, une question.
Merci pour la parole. Je m'appelle Cosmas Mungazi Kakola, journaliste scientifique, promoteur du journal Flambeau de l'Est. Ma question s'adresse à José. Je viens de Rutshuru, où le groupe armé abat les hippopotames, presque en coq à l'âne. S'il faut que je parle de la date, du 3 mars au 12 mars dernier, ils ont abattu une dizaine d'hippopotames. Ma question s'adresse à José. Pourquoi vous ne documentez pas les crimes environnementaux? Cette même question s'adresse à Mme Florence, qui est chargée de communication des agences des Nations Unies. La question s'adresse spécialement à l'UNESCO, qui doit protéger le parc national de Virunga. Je voulais savoir, l'UNESCO, qu'est-ce qu'elle fait pour la protection du parc national de Virunga, qui est son patrimoine?
Merci, mais pour la question adressée à José Maria, il s'occupe des droits de l'homme, hein, pas des droits des animaux. Bon, je ne sais pas si il a cette spécialité, José Maria. Je pense que non, José.
Non, non, non. Je suis vraiment inquiété pour les préoccupations des hippopotames. Voilà. Tant que les droits environnementaux sont importants, je passe la question à Florence. Mais merci pour m'être réveillé de la piste.
Voilà, Florence.
Alors, je ne suis pas beaucoup plus calée que Rosé Maria pour parler des hippopotames. Mais effectivement, il faut protéger les hippopotames. Comme toutes les espèces sauvages ici. Effectivement, c'est dans le mandat de l'UNESCO. Virunga fait partie, est un parc sous protection de l'UNESCO. Je vais me rapprocher d'eux et je vous promets, la semaine prochaine, vous aurez une réponse sur les hippopotames.
Par rapport à cette question, je crois que notre collègue de l'UNESCO a fait un déplacement dans ce parc il y a à peine un mois.
Ah, d'accord. Tant mieux. Merci pour cette information. Kinshasa, une autre question avant qu'on ne boucle. Droit de l'homme. Alors, donnez le micro là à l'une des deux dames. Je ne sais pas. Faites le choix vous-même. Ok. Allez-y, je crois que
c'est Judith Assina pour le compte du journal Congo Nouveau. Une question droit de l'homme. Monsieur José, nous avons appris récemment la suspension du général Kanyama. Quelle lecture faites-vous de cette situation, d'autant plus que c'est une personnalité qui a été accusée de plusieurs bavures?
Merci. José Maria.
Merci beaucoup pour la question. Comme vous savez, nous avons demandé beaucoup des fois et de manière réitérée une enquête sur les violations des droits de l'homme présumées commises par la PNC sur les commandements du général Kanyama. Je ne peux pas me prononcer sur la suspension parce que nous n'avons pas l'information directe de quelles sont les vraies raisons pour ces suspensions, mais peut-être ça va donner une opportunité pour avoir une enquête sur cette violation des droits de l'homme qui a été commise à Kinshasa dans l'opération Likofi 1, Likofi 2, des manifestations de janvier 2015 et aussi septembre et décembre 2016. Merci.
Fin de cette conférence de presse. Merci de l'avoir suivi.